OK, on va continuer notre étude sur glorifier Dieu dans votre corps. On était rendu aux 8 séries de versets de la Bible qui concernent nos corps, nos devoirs envers nos corps. On avait vu qu'on avait utilisé une image, l'image de la corde à 7 brins. Donc, la corde à 7 brins, c'était les principes théologiques sur lesquels les versets, autrement dit, on a établi 7 principes sur lesquels on se doit de s'appuyer si on veut développer une théologie correcte du corps. Mais après ça, les 8 perles, c'est des groupes de versets qui nous donnent, que Dieu nous donne des commandements sur la manière dont on doit traiter notre corps selon les Écritures. Alors, c'est ça qu'on avait vu. On avait fait les deux premiers points, je pense. Le premier, on va les réviser très rapidement. Le premier point, c'était une supplication de l'apôtre, une supplication apostolique. Dans 3 Jean, au chapitre 1, verset 2, ça dit, Jean dit, « Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. » On sait que Gaius était un personnage à l'époque qui recevait les chrétiens qui se promenaient, autrement dit, parce qu'à l'époque, ils se promenaient d'une église à l'autre, mais ça se faisait à pied ou à cheval. Et ça prenait quelqu'un, il n'y avait pas d'hôtel comme d'aujourd'hui. Quand tu arrivais dans un nouvel endroit, ça prenait quelqu'un qui accueillir les gens, les faire coucher chez vous, les faire manger chez vous. Des fois, ça pouvait être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ça ne mentionne pas le temps. La raison pour laquelle Paul parle du corps, il lui dit, « Je souhaite que tu sois en bonne santé physique comme ton âme. » Parce qu'il fait le lien entre le fait que si on est en bonne santé physique, on va pouvoir mieux servir le Seigneur et on va pouvoir le servir plus longtemps. Alors, il fait le lien entre les deux. C'est très important que nous aussi, on le fasse, le lien. Parce que si on se néglige, notre corps peut devenir malade. En devenant malade, on n'est pas des aussi bons serviteurs que si on était en pleine forme. Alors, les Écritures nous donnent un paquet de commandements face à la manière dont on doit traiter notre corps, et on se doit d'en tenir compte. Donc, la première, c'est une supplication apostolique de Jean, l'apôtre Jean. La deuxième, c'était l'exhortation qu'on connaît tous dans Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Alors, quelque part, c'est important de regarder où Paul écrit ça. Il écrit ça après avoir démontré les innombrables bénédictions que Dieu a faites pour tous ceux qui ont été sauvés. Et c'est comme une façon de dire, maintenant que je vous ai tout dit ça, parce que c'était une lettre. Hein? Autrement dit, c'est comme c'était la conclusion d'après les 11 premiers chapitres. Là, il leur dit, si vous seriez le moindrement conscient de ce que Dieu a fait pour vous, voici comment vous devriez agir. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, pour que Dieu s'en serve comme un instrument. Mais si on veut que Dieu se serve dans notre corps comme un instrument, il faut en prendre soin selon les directives qu'il nous donne dans les Saintes Écritures. Et au 21e siècle, au 20e siècle, quand on regarde les statistiques que je vous avais données dans les premières leçons, on néglige le corps d'une manière épouvantable en Amérique du Nord. En Europe, je pense que c'est la même chose. Dans les pays orientaux, je ne sais pas, mais au Canada et aux États-Unis, c'est vraiment épouvantable. Il y a des épidémies de maladies qui sont dues à cause du mauvais traitement qu'on donne à notre corps. Oui, pour les païens, on peut arriver à comprendre, mais nous, on est chrétiens, on se devrait d'agir conformément à ce que Dieu nous commande. Il ne nous demande pas, il nous commande de le faire. Si on ne le fait pas, là, mes amis, on est dans le péché. Alors ça, c'était la deuxième exhortation. Autre rappel qu'il nous avait fait, c'était le 1 Jean 5,19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal ou est sous la puissance du malin. Alors, on vit dans une société où toute la société au complet nous incite à surconsommer, nous incite à manger mal, à manger trop. Et non seulement ça, mais à négliger les exercices. On est dans une société qui est dominée par le malin et ses valeurs transparaissent tout partout. Et si on ne fait pas attention, nous aussi on embarque là-dedans. Il ne faut pas penser que les problèmes qu'on voit dans le monde, ça arrive juste aux gens du monde, là. On en voit dans les églises, ces problèmes-là. Alors, quelque part, c'est la preuve qu'on a besoin de se faire rappeler ces choses-là à l'occasion. Alors, la question, comment on répond à ce que Paul nous dit d'offrir nos corps? Alors, bien entendu, ça implique qu'on doit sérieusement, pas d'une manière obsessive ou fanatique, mais on se doit de nous préoccuper de questions comme la nutrition, l'exercice, le repos, la forme cardiovasculaire, l'atteinte et le maintien d'un poids corporel en santé, le vêtement. C'est un sujet large, parce que quand on parle du corps, ce n'est pas nécessairement juste la santé, c'est la manière dont tu te vais, la manière dont on est vêtu révèle aussi la manière dont on traite notre corps. Et en tout cas, on rentre dans un sujet, je vous le dis, je veux qu'on, ça va durer plusieurs semaines, parce qu'on va aller dans les différents aspects, la sexualité par exemple. Alors quelque part, on va aller chercher tout ce qui concerne, qui a un rapport avec le corps et dont la Bible est pleine d'enseignements et pleine de commandements face à comment on doit se comporter là-dessus. On est rendu à la troisième perle. La troisième perle, c'est une déclaration et une application apostolique. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Alors, c'est Paul qui parle. Il dit, « Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira et ceux-ci et celui-là. Et le corps n'est point pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle, car il dit « les deux deviendront une seule chair ». Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? » C'est long à apprendre ça, là. Ça a l'air de rien, une petite phrase comme ça, là. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le corps que Dieu nous a donné, là, ça ne nous appartient pas, et de un. Et de deux, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Alors, c'est une raison supplémentaire pour qu'on s'en occupe correctement. Et après ça, dans le verset 20, là, il dit la raison. Donc, on dit dans l'eau, une déclaration et une application. La déclaration, c'est ça. Mais l'application, il dit pourquoi? Car vous avez été achetés à un grand prix. Autrement dit, le prix que le Seigneur a payé sur la croix pour nous libérer de la punition que nous aurions dû avoir en enfer, il l'a subi à notre place sur la croix, s'il nous était donné de comprendre vraiment ce que ça dit, là. C'est d'une profondeur inimaginable, ce que le Seigneur a subi pour nous. Quand il dit « car vous avez été rachetés à grand prix », autrement dit, ne vous en allez pas dans la fornication parce que votre corps appartient au Seigneur, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas? C'est comme si on tombe des nues, on se rend compte que notre corps, c'est pas nous autres, au Seigneur. Puis qu'en plus, le Saint-Esprit habite en nous. Et après ça, la deuxième partie du verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et on a tous des manquements là-dessus, sans exception, j'en suis persuadé, je n'ai même pas besoin de faire d'enquête. Je suis sûr qu'on a tous des manquements sur ce côté-là. Alors, à quelque part, il faut que, si on veut être fidèle aux Écritures, il faut quelque part obéir. C'est pas juste de lire quelque chose et de le comprendre. On peut lire et on peut comprendre, puis on peut pas appliquer. Il faut lire, il faut comprendre, puis il faut obéir. Si on fait pas ça, quelque part, il nous manque un élément extrêmement important. Donc, même une lecture rapide de ce passage-là nous amène à la conviction que l'apôtre traite ici principalement du problème du péché de nature sexuelle. On dit que la ville de Corinthe, si vous lisez un petit peu dans les dictionnaires de biblique, là, la ville de Corinthe était reconnue comme un lieu où les péchés d'ordre sexuel, les gens pensaient adorer en ayant des relations sexuelles avec des prostituées sacrées. Alors, c'était une ville où les gens étaient entourés de ce genre de valeurs-là. C'était facile pour un chrétien de tomber dans ce péché-là parce que c'était répandu dans toute la ville de Corinthe. Alors, il était en train de leur rappeler, c'est pas à cause que tu vis dans une ville où tout le monde fait ça que toi, tu as le droit de le faire. Parce que le Seigneur, ton corps, il lui appartient, puis il a prié un drôle de grand prix pour l'obtenir. Alors, il faut que tu te comportes en conséquence. Alors, la deuxième partie, quand vous avez été acheté un grand prix, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, le passage nous rappelle que nos corps possèdent les caractéristiques suivantes. Ils ont été créés par Dieu. Ils ont été unis à Christ. Ils sont destinés à la résurrection physique. Parce qu'un jour, on meurt, on va en terre, ou ceux qui décident d'être brûlés, peu importe, tu vas être ressuscité pareil. Achetés par le sang de Jésus, que ça nous dit dans les Écritures. Habités par le Saint-Esprit. Si on se rendait compte de ça vraiment, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te mets à réfléchir là-dessus. Le Saint-Esprit, disons qu'on prend les 20, disons qu'on dit qu'il y a 25 attributs de Dieu. Ils sont tous infinis. Et ce Dieu-là, là, le Saint-Esprit, habite en nous, dans nos corps. On prend très, pas assez au sérieux, puis on ne médite pas assez sur cette grande vérité-là. Parce que plus on va méditer sur cette vérité-là, plus on va agir en conséquence pour obéir à ce que les Écritures nous donnent. Les Saintes Écritures nous enseignent que le péché s'exprime à travers nos corps. Romains chapitre 6, versets 12 et 13. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. » Alors, il est en train de nous dire que le corps est plein de convoitises. Mais il dit de ne pas obéir au corps. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de mort étant devenu vivant et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Romains 7, verset 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, on fait le lien entre le péché et l'expression du péché qui se produit bien souvent par notre corps. Pas tout le temps, mais souvent. Alors, la Bible nous enseigne que nos corps ont la tendance à se détériorer avec le temps et qu'ils se dirigent vers la mort et la tombe, à moins que le Seigneur ne revienne avant que notre mort physique arrive. Mm-hmm. Avez-vous déjà pensé à ça des fois? Aimeriez-vous ça? Que le Seigneur revienne avant que vous connaissiez la mort physique. Ça aurait quoi comme conséquence? Tu ne mourrais pas physiquement. Ton corps serait transformé, amené avec lui. Et ça devrait être un rêve pour nous de faire partie de la génération qui ne mourra pas. Il va y en avoir une génération de chrétiens qui ne mourra pas. J'aimerais ça, moi, être dans ceux-là. Je ne sais pas si vous autres êtes comme ça. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ces réalités-là qu'on vient de lire dans les versets ne nous exemptent pas des devoirs que nous devons à nos corps. Le verbe « glorifier Dieu dans vos corps » est un verbe à l'impératif. Un verbe à l'impératif, ça veut dire que c'est un verbe qui nous commande quelque chose. Quand vous voyez dans les Écritures « EZ », un verbe qui finit par « EZ », c'est que Dieu est en train de te commander quelque chose. Moi, j'ai déjà fait de l'armée, puis je peux vous dire une chose, quand il arrivait un officier, puis il disait j'obéissais au doigt et à l'œil, comme on dit. Mais Dieu nous commande des choses, puis nous, on dirait qu'on est capable de l'ignorer pour c'est très grave, mes amis. Alors, glorifier Dieu, le verbe est à l'impératif présent. Impératif présent, ça veut dire que le commandement est constant à tous les instants de ta vie, tout le temps. L'impératif, ça dit, le commandement est présent, mais présent constant. Présent tout le temps. Impératif présent. Alors, c'est un commandement divin que l'on se devrait d'appliquer de façon constante tout au long de notre vie. Alors, bien sûr, ces choses-là impliquent que nous poursuivions un style de vie qui est motivé par un désir profond de glorifier Dieu dans notre corps. Je ne suis pas sûr que c'est le cas dans l'ensemble des églises d'Amérique du Nord, que je connais en tout cas. Ce n'est pas si le cas que ça, en tout cas. Peut-être pour certains, mais pas pour la majorité. Parce que Dieu a fait notre corps et ce corps-là a une dignité inexprimable. Je me souviens dans le livre que j'ai donné aux gens quand ils sont venus à l'association, ici, il y en avait un sur l'homme. Et une des choses qui m'a remarqué dans ce livre-là, c'était que le pasteur développait l'idée que tous les hommes, pas juste les chrétiens, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Et quand on voit sur la rue un vieux robineux, là, que le cœur nous lève quasiment juste à le regarder, là, tellement il a l'air... il dit, va au-delà de l'apparence. Rappelle-toi que cet homme-là a une dignité parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est drôle, j'ai dit ça, j'ai dit, ça fait en sorte que tu ne regardes plus jamais les êtres que tu es porté à mépriser, même les plus petits, les plus démunis, les plus... les poqués de la société, comme on pourrait dire. C'est vrai que ça a cet effet-là. Parce qu'après ça, tu dis, non, il est à l'image de Dieu. Je me dois de l'aimer, je me dois de le respecter. Aujourd'hui, le monde a tendance, avec ces gens-là, de cracher dessus, de les mépriser, de les haïr, de donner toutes sortes de grands mots. Tu sais, le faire des problèmes, autrement dit. 1 Corinthiens 10, 31 nous donne un bon indice comment on doit se comporter face à l'utilisation de notre corps. « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. » Autrement dit, c'est en train de dire que tu fasses la vaisselle, que tu fasses ton laveur, que tu fasses ton repasseur, que tu rentres ton bois, que tu cordes ton bois. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais avec ton corps, voici ce qu'il dit. Fais tout pour la gloire de Dieu. On ne se devrait jamais chialer dans quoi que ce soit qu'on fait, parce qu'on devrait toujours faire tout pour la gloire de Dieu. Toutes les choses que je vous ai nommées, j'aurais pu mettre une liste bien plus longue que ça, là. C'est... vous mangez, que vous bouviez, ou quelque autre chose. Autrement dit, tu es en train de dire, n'importe quoi que tu fais avec ton corps, fais-le pour la gloire de Dieu. J'avais déjà entendu un sermon, quelqu'un qui disait ça. Il disait, si tu veux, disons que tu as de la vaisselle à faire chez vous. Tu n'aimes pas ça faire de la vaisselle. Tu as un plancher à faire. Tu n'aimes pas ça faire ton plancher. Fais-le avec une autre attitude. Je le fais pour Dieu. Je le fais parce que ça donne gloire à Dieu. Peu importe ce que tu fais, si tu te fais bien, ça rend gloire à Dieu. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, ça, bien sûr, tout ça, ça implique que nous tenions compte de la qualité nutritionnelle de ce que nous mangeons, la qualité nutritionnelle de ce que nous buvons, et ne pas le faire peut conduire à des maladies circulatoires, on le sait. On a toutes sortes de maladies à cause du fait qu'on mange mal, qu'on mange trop gras, qu'on mange trop sucré, etc. Ça nous amène des problèmes d'embonpoint. Ça nous amène des problèmes d'artères bouchées. Ça nous amène bien d'autres problèmes qu'on pourrait allonger la liste. Mais s'il y avait un médecin, il pourrait vous en allonger une liste jusqu'à demain matin. Alors, on est responsable de ce qui nous arrive bien souvent par nos abus ou par notre inconscience. Alors, nous sommes souvent les artisans de nos maladies comme résultat direct de notre irresponsabilité. Moi, je dis un grand amen à ça. Je suis le premier à m'accuser. Et il faut reconnaître les choses. Si on ne les reconnaît pas, on ne changera pas, ça c'est sûr. Alors, le résultat combiné de toutes ces choses-là, la mauvaise alimentation, le manque d'exercice, manque d'acquérir des connaissances médicales élémentaires, c'est notre responsabilité d'aller les chercher, conduit à toutes sortes de maladies et de dérèglements corporels. On va commencer la quatrième. Quatrième perle, c'est une affirmation encore apostolique. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'est pas en train de dire que ça ne vaut rien. Il est en train de dire que si tu compares l'exercice corporel à tout ce qui est spirituel, c'est moins important. Autrement dit, c'est une question de quoi tu mets en priorité. Mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Le volume que je me sers, le gars, il dit dans une petite note de bas de page, tel pasteur de telle église a fait 4 sermons sur l'utilité de l'exercice corporel. 4 sermons. À quelque part, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les églises aujourd'hui. Moi, vous dire, ça fait 40 ans que je suis chrétien, puis des sermons sur l'exercice, je n'ai jamais entendu. Jamais. À quelque part, c'est vrai qu'on est négligent là-dessus. Alors, la première épître de Paul à Timothée a pour but de rappeler à Timothée la liste de ses responsabilités comme ministre de l'Évangile. Ces responsabilités entraînent des comportements qui serviront d'exemple aux âmes que le Seigneur lui a confiées. Alors c'est prêcher sur ça, ça a des responsabilités supplémentaires parce qu'on est censé être des exemples. Alors, quand tu prends conscience que tu es supposé être un exemple puis que tu te rends compte que tu as des manquements toi-même, tu te dis à quelque part, là, il faut demander la grâce à Dieu pour que ça change. Alors c'est ça qu'il faut faire. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15, « Je t'écris ceci, espérant d'aller bientôt vers toi, et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'édifice du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » 1 Timothée 4, 16, « Prends garde à toi-même et à la doctrine, persévère dans ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Alors, il est en train de nous dire que l'exercice physique, c'est important, mais ce n'est pas aussi important que les exercices spirituels, la piété. Alors, beaucoup d'écrits contemporains vantent les grands mérites de l'exercice physique. On a la responsabilité de les connaître et de les appliquer. Jacques 4, verset 17, et on va terminer là-dessus. Jacques dit ça. Il y a donc péché en celui qui sait pratiquer le bien et qui ne le pratique pas. C'est assez fort, c'est un petit verset, mais il en dit vraiment long. Quand tu sais quelque chose, que le Seigneur a permis que tes oreilles l'entendent et que ça ne produit pas un changement dans ta vie, Jacques, il ne voit pas que le dos de la cuillère, il dit, il y a donc péché en celui qui sait pratiquer le bien et qui ne le pratique pas. Alors, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui.